Chapitre 46. Même si le siège d'Île-Dakar était promis à durer encore un peu, Outros ne pensait plus qu'à Magelle, sa bien-aimée dont le temps et la mort le séparaient. Sinon, il avait besoin que son empereur lui dise que faire, éclairant son chemin, si Khorgan avait encore des ambitions de l'autre côté du voile. Ava et Rouva étaient enfin prêtes. Grâce à elles, il allait avoir une seconde chance. Comme un enfant, Outros s'accrochait à l'espoir de reparler avec Khorgan et Magelle. Entre son devoir et son cœur, le conflit faisait rage, mais en compartimentant son esprit, il parvenait à ne pas perdre la raison. Dès que le camp se fut un peu remis de l'attaque surprise, il ordonna aux magiciennes de passer à l'action. Campées devant les six tonneaux de sang, les jumelles caressèrent le bois comme si elles pouvaient sentir le fluide vital et son pouvoir à travers les couvercles.
« Nous avons ce qu'il nous faut, Outros chéri, » annonça Rouva. « Mais nous avons besoin d'autre chose pour créer la lentille, des cendres et du sable, afin de fabriquer le verre. »«
Tout ce que vous voudrez, » concéda Outros.
Il chargea Enoch de réunir ses matières premières. Dans le camp, la seule chose qui ne manquait pas, c'était la main-d'œuvre. Au début du siège, enfin après le réveil, les hommes avaient creusé des tranchées afin de détourner les rivières qui alimentaient les aqueducs d'Île-Dakar. Même si la ville pouvait toujours puiser de l'eau dans le fleuve, ça finirait par lui poser un problème. Sur les berges des cours d'eau asséchés, le sable ne manquait pas. Pendant que les magiciennes aménageaient leur zone de travail près du quartier général, les soldats en apportèrent des tonnes grâce aux chariots réquisitionnés à Stravera. En faisant fondre la ferraille et également voler là-bas, plus des chaînes et des morceaux d'armure récupérés un peu partout, Ava et Rouva fabriquèrent un creuset géant isolé à l'intérieur par de la glaise. Pendant que des hommes le remplissaient de sable, d'autres allèrent chercher des cendres dans les collines. Pour en ramasser, il suffisait de se baisser. Et collectèrent également des braises froides dans les feux de camp. Une fois le mélange réalisé dans le creuset, les jumelles le firent chauffer avec leurs dons, un flot constant et régulier de chaleur pour obtenir un résultat parfait. Des heures durant, elles se relayèrent pour superviser le processus. De plus en plus impatient, Outros vint contempler la pâte de verre.
« Je sens le pouvoir à l'intérieur !» s'extasia-t-il.
La sueur due au labeur ayant commencé à diluer les runes peintes sur sa peau, Ava lui sourit gentiment.
« C'est du verre, simplement. Jusque-là, nous n'avons rien fait de spécial. »
Il fallut une demi-journée pour obtenir le résultat désiré. Quand ce fut fait, Rouva tourna la tête vers les tonneaux remplis du sang d'enfants innocents. Toujours fasciné par le spectacle, Outros ne posa pas de questions et ne s'autorisa aucune suggestion. Ces magiciennes de grandes filles savaient ce qu'elles faisaient. Des soldats portèrent les tonneaux jusqu'au creuset géant. Encore pétrifiés, ils ne furent pas affectés par l'intense chaleur qui en montait. Les jumelles approchèrent des tonneaux, caressant une fois de plus les couvercles.
« Il nous faudra tout pour plus de sécurité. »
Quand les tonneaux eurent été ouverts, une puissante odeur cuivrée monta aux narines du général. Aux anges, Ava et Rouva regardèrent des soldats soulever les tonneaux, puis elles lancèrent une série de sortilèges pendant qu'ils versaient lentement le sang dans le mélange de cendres et de sable. Le grésillement du fluide vital, quand il tomba sur le verre en fusion, évoqua les cris de douleur et d'angoisse de dizaines d'enfants égorgés. Impassibles, Ava et Rouva utilisèrent leurs dons pour remuer leur ignoble ragoût. Quand elles eurent terminé, elles soupirèrent de soulagement.
« Le mélange est achevé, » annonça Rouva. « La lentille sera bientôt prête. À ce moment-là, la trace invisible des âmes innocentes te permettra de regarder de l'autre côté du voile. »
Dans un coin de sa tête, Outros entendit un écho du rire de Magelle, puis de ses doux murmures une fois leur passion réciproque assouvie.
« Ce sera prêt quand ?»«
Il reste plusieurs étapes, » répondit Ava. « La première, c'est de verser le verre dans le moule. »
Juste devant le quartier général, les jumelles avaient fait creuser un trou rond peu profond d'environ 6 pieds de diamètre. D'un simple sortilège, elles avaient ensuite durci la terre pour qu'elles puissent faire usage de support. Ouvrant le drain du creuset, elles laissèrent le verre en fusion couler dans ce réceptacle où il se solidifierait lentement. Admiratif, Outros contempla longuement le petit bassin de plus en plus brillant sous les rayons du soleil.
Même avec l'aide de notre magie, il faudra une journée entière pour que ça refroidisse, Outros chéri. Ensuite, nous polirons la surface, puis nous sortirons la lentille du moule et nous lancerons l'ultime sortilège. Outros se résigna à attendre encore un peu.
Après 15 siècles à patienter, un seul jour de plus paraît être une éternité.
Les jumelles vinrent se serrer contre leur général adoré.
« Nous t'aiderons à passer le temps, » susurra Rouva.
« Oui, »
ajouta Ava.
« Et bientôt tu verras de l'autre côté du voile. »
Le lendemain, les nuages au-dessus des montagnes virèrent à l'écarlate comme si le sang des innocents les colorait. Fou d'impatience, le cœur menaçant d'exploser, Outros se préparait à parler au spectre de son empereur et à revoir enfin Magel, l'amour de sa vie. Une lentille de cette taille, dans des circonstances normales, aurait mis des semaines à refroidir, en contrôlant la température afin qu'il n'y ait aucun défaut dans le verre au terme du processus. Mais Ava et Rouva, avec leurs dons, s'introduisirent au cœur même de l'artefact et l'aidèrent à se stabiliser, puis à baisser en température sans qu'un accident se produise. Lorsque la lentille de sang fut froide, les jumelles s'agenouillèrent et utilisèrent leurs mains, enveloppées de magie, pour modeler et polir la surface. Tout l'art consistait à obtenir la courbure qu'elles avaient précisément calculée lors de leurs travaux préparatoires. Quand tout fut fini, 30 soldats parmi les plus musclés de l'armée se servirent de cordes et de barres de fer enveloppées de tissu pour redresser la lentille géante. Tandis qu'ils la maintenaient, les magiciennes la dotèrent d'un cadre afin qu'elle tienne debout toute seule. De nouveau à main nue, elles achevèrent leur grande œuvre en rendant le verre transparent. Fasciné par chaque détail de cet incroyable exploit, Outros restait cependant préoccupé par ce qu'il allait dire une fois face aux esprits. Fidèle aux ordres donnés jadis par Croc de Fer, il n'avait pas levé le siège d'Ildakar, qui tomberait un jour ou l'autre, il n'en doutait pas un instant. Mais la mission confiée par Kourgan ne s'arrêtait pas là. À son maître, il avait juré de conquérir le monde. Et pour assiéger Ildakar, il n'y avait pas besoin d'une armée entière. D'ailleurs, des corps expéditionnaires étaient déjà en chemin vers d'autres cibles. Depuis son palais de Rogang, Kourgan entendait régner sur tout l'ancien monde. En soi, dans un continent désuni, conquérir n'était pas bien difficile. Gouverner, en revanche, apprendre la déconfiture de l'Empire après la mort de Kourgan n'avait pas étonné Outros. Bien sûr, le coup lui avait fait mal, mais il s'y attendait. Tout territoire conquis devait ensuite être dirigé d'une main de fer. Mais ça, c'était le travail des politiciens, pas des militaires. Dans ses pires cauchemars, Outros n'avait jamais envisagé de régner sur un continent. Cela dit, depuis son réveil, il ourdissait des plans pour remettre la main sur les terres qu'il avait jadis conquises. La première vague de ce vaste mouvement était déjà lancée. La côte, le sud, les collines et les montagnes, le nord, les berges du fleuve Chasse-Corbeau, les corps expéditionnaires rayonneraient partout et annexeraient tout ce qu'ils pourraient au nom de Kourgan, un empereur quasiment tombé dans l'oubli. Dès qu'il s'adresserait au spectre de son maître, Outros lui annoncerait de grands progrès, même différés de 15 siècles. Si Kourgan parvenait à donner des ordres via la lentille, donc à continuer de régner à partir du royaume des morts, son empire durerait jusqu'à la fin des temps, et Outros se rengorgerait d'avoir fait son devoir mieux et plus fidèlement que n'importe quel homme dans l'histoire. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Derrière le voile se trouvait aussi le spectre de Magel. Et selon ce que Nietzsche et Nathan avaient raconté, Croc de Fer était au courant de la trahison de sa femme. Dans le royaume des morts, un désir de vengeance pouvait-il survivre 15 siècles? Pour un spectre, le temps avait-il un sens? Devant la lentille géante, Outros frémit intérieurement. Comme le montraient ses états de service, il était un homme courageux et audacieux, pourtant il crevait de peur.
« Lancez le sort »
ordonna-t-il aux jumelles.
« Je ne veux plus attendre !»«
Général chéri, » dit Rouva, « nous devons rester pour rétablir la connexion avec le royaume des morts. Mais ces soldats autour de nous... »
Ava regarda aussi les hommes qui considéraient l'artefact d'un œil morne.
« Oui, Outros, il nous faudrait un peu d'intimité. »
Le général se tourna vers Enoch.
« Premier commandant, fais dégager la zone. Je tiens à avoir une conversation privée avec mon maître. » Compris, général. »
Quand il eut dispersé les hommes, Enoch s'éloigna à son tour. D'un pas assuré, le général approcha de l'artefact. À partir de maintenant, il ne devrait plus trahir la moindre hésitation devant son empereur ou ses soldats. Au moins, il n'y avait plus de témoins désormais. Alors que le soleil sombrait à l'horizon, les magiciennes vinrent flanquer la lentille qui brillait comme une pierre de lune, mais ne laissait voir qu'une totale obscurité. Sur la surface de verre ronde, Ava et Ruva entreprirent de dessiner des runes qui se mirent à diffuser une lumière rouge. Même s'ils ne connaissaient pas grand-chose à la magie, Outros supposa qu'il s'agissait de points d'ancrage ou quelque chose dans le genre. Ava travaillait dans le sens des aiguilles d'une horloge, alors que Ruva progressait dans la direction opposée. Traçant 5 runes chacune, elles finirent très exactement au même moment. Et quand elles reculèrent, leurs dessins continuèrent à scintiller. Le verre devint incroyablement clair, puis afficha enfin une image du voile et de ce qu'on apercevait derrière, tout ça au cœur d'une brume verdâtre à nul autre pareil. Outro s'approcha au point que son nez toucha presque la lentille. À travers le verre veiné de filaments rouges, le sang à l'évidence, il distingua une multitude de silhouettes. Des hommes et des femmes victimes de morts violentes ou simplement détruits par le passage des ans. En son royaume, le gardien accueillait tous les êtres qui avaient vécu depuis l'aube des temps, une formidable multitude. Au sein de cette foule, Outros cherchait 2 personnes. Sentant de l'humidité perler à ses paupières, il refusa d'envisager qu'il puisse s'agir de larmes.
« Magel !»
appela-t-il, soulagé que personne ne l'entende, à part les jumelles.
« Où es-tu ? Tu sais, je ne t'ai jamais quitté et j'ai toujours besoin de toi. »
Oui, c'était la bonne façon de procéder. Voir d'abord Magel, puis faire ensuite son rapport à Croc de Fer. Le cœur devait passer avant le devoir.
« Magel, où es-tu ? »
De l'autre côté du voile, les spectres semblèrent avoir entendu. Indistinctes et immortelles, ces ombres se mirent en quête du fantôme que cherchait le général. Osant à peine respirer, Ava et Ruva reculèrent, mais Outros ne leur accorda aucune attention. Là-bas, dans l'autre monde, une silhouette venait à lui. Et cette façon de marcher, il l'aurait reconnue entre 1000.
Magel !
Magel et ses yeux brillants. Magel et sa peau douce. Magel et... Soudain, la brume verdâtre s'éclaircit.
Outros ? C'est toi ?
Cette voix, unique entre toutes. Quand l'image se fit plus nette, le général écarquilla les yeux de terreur. Sur le visage décorché de Magel, des muscles et des tendons jouèrent pour faire bouger ses lèvres.
« Je suis là, mon amour. »